Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique. Nous recevons ce soir Didier Guillaume, sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Bonsoir Didier Guillaume.
Bonsoir.
À mes côtés pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir,
bonsoir
Roselyne.
Bonsoir Valérie.
Et Nathalie Rollin de Libération.
Bonsoir.
Alors Didier Guillaume, l'actualité politique est vraiment très chargée, on va dire, cette semaine. Le premier temps fort, c'était cet après-midi. Hein. Manuel Valls a fait sa deuxième déclaration de politique générale. Et il s'est soumis à un vote de confiance. Il a obtenu cette confiance, mais avec un score un peu moins large que la dernière fois. Avant de revenir sur la signification de ces chiffres, je vous propose d'écouter un extrait du discours de Manuel Valls cet après-midi. Ce vote de confiance n'était pas obligatoire. C'est un choix politique du Premier ministre et nous allons écouter comment il le justifie.
Les doutes, les colères, ils sont légitimes quand le chômage atteint des niveaux aussi élevés et depuis si longtemps. Mais face à cela, quelle attitude faut-il adopter? La fébrilité? Le virage? Le zigzag? Le renoncement? Non. Gouverner, c'est résister. Gouverner, c'est tenir. Gouverner, c'est réformer. Gouverner, c'est dire la vérité. Gouverner, mesdames et messieurs les députés, c'est aller chercher la confiance, surtout quand c'est difficile.
Alors, ça a été un petit peu difficile. Hein. Le score est moins élevé qu'en avril. 269 pour, 244 contre 306 pour et 239 contre en avril. Est-ce qu'il a eu raison, Manuel Valls, d'aller chercher cette confiance?
Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre solution. Qu'aurions-nous dit, qu'aurions-nous entendu s'il n'avait pas demandé ce vote de confiance? Il s'est passé un événement en août, puisqu'il y a eu un changement de gouvernement. Il avait donné sa démission et un nouveau gouvernement. À partir de là, nouveau gouvernement, nouvelle étape. Et je pense que c'est très important.
Nouvelle étape, mais la même politique.
Bien sûr.
Absolument aucun changement, il réaffirme la même chose.
Bien sûr, c'est pour cela qu'il fallait absolument que la confiance lui soit réaffirmée à l'Assemblée nationale. Il l'avait annoncé, ça avait été dit par le président de la République. On ne change pas de cap pendant la tempête. Non pas parce qu'il y aurait une doctrine qui ferait qu'on ne veut pas regarder ailleurs, mais tout simplement que pour l'instant, personne ne propose d'autre solution. Et que le cap qui est fixé nous semble le bon pour redresser la France. Ça prendra du temps, les Français ont du mal à le comprendre, c'est ce qui explique leur inquiétude, mais c'est comme cela.
Mais est-ce que Manuel Valls peut retrouver la confiance? Il n'a pas une majorité solide à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'axiome de base, c'est pas ça?
Oui, mais je pense vraiment qu'il a une majorité très solide à l'Assemblée nationale. Puisque si on regarde entre les pour et les contre, les voix socialistes sont supérieures à tous les contre. Si j'enlève tous nos partenaires et tous ceux qui ont pu voter. Donc, il y a une majorité absolue de socialistes qui soutiennent le gouvernement. Simplement, depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines, on entend beaucoup parler de 30, là, 31 ou 32, je sais pas, qui ne sont pas favorables à cela. Mais il y a tous les autres.
Le score des frondeurs, vous en parlez, les fameux frondeurs socialistes, ils sont quand même beaucoup plus nombreux qu'en avril. Ils étaient 11 et là, ils sont quand même 31 ou 32 peut-être.
Oui, mais
là-dessus, il y a quand même un échec.
Non, au contraire, ils auraient pu être beaucoup plus nombreux. Nous craignons qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, il y a eu le budget rectificatif, le PLFS, le budget sécu rectificatif, et qu'il y a des positionnements dans le PS qui n'ont pas été acceptés par un certain nombre de nos collègues. Je le regrette profondément. C'est un vote de confiance. Quand un gouvernement demande la confiance à sa majorité, elle doit lui donner. Ou alors, ça commence à poser des problèmes politiques.
Ça commence à poser des problèmes. Nathalie Rollin.
Alors, on ne change pas de cap, vous l'avez rappelé. Donc, Valls, pendant son discours, a dit 50 milliards de coupes budgétaires jusqu'en 2017. 21 sont programmés pour l'année prochaine. C'est notamment sur ce point qu'insistent les frondeurs, vu les résultats économiques assez désastreux qu'on accumule. Est-ce que ça vous semble supportable, 21 milliards de coupes dans les dépenses publiques, sachant que le maximum, ça a été en 2012, 10 milliards?
Mais le problème, c'est pas de savoir si c'est supportable. C'est ce qu'il faut faire pour la France, pour redresser la France. Et le courage de ce gouvernement, du chef de l'État, du Premier ministre, c'est justement d'assumer cela. Est-ce qu'être de gauche, ça veut dire qu'il faut laisser filer le déficit, augmenter la dépense publique? Non. Notre pays va dans le mur. Et s'il va dans le mur, c'est aussi parce que l'héritage qui nous a été laissé n'est pas bon. Parce que la dette a augmenté terriblement dans le précédent quinquennat. Les déficits publics se sont creusés. L'appareil industriel, on n'a jamais perdu autant d'emplois que lors du dernier quinquennat. Donc il faut faire ces économies. C'est difficile. Mais François Hollande, dans son discours du Bourget, parce qu'il est fidèle à son discours du Bourget, a dit « D'abord, nous redresserons les finances publiques ».
Mais est-ce que le discours des frondeurs, ce n'est pas le discours de la facilité? Parce que dans le fond, ce que demandent les frondeurs, c'est de faire une politique qui n'a pas marché pendant 30 ans. Vous l'avez rappelé, laisser filer les déficits, cette politique de relance qui voudrait qu'on redistribue ce qu'il n'y a plus rien à distribuer. Est-ce que vous considérez que c'est un retour au passé, alors qu'en quand même, en 83, eh bien, personne n'avait moufté, excepté Jean-Pierre Chevènement. Comment, en 30 ans, les socialistes en sont encore là?
Non, mais moi, je ne mets pas en cause la sincérité de ceux qui se sont abstenus. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de postures politiciennes. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2014. Nous ne sommes plus dans les années 80. Et qu'il faut arrêter avec les dogmes qui feraient que, comme on l'avait dit au congrès d'Épinay en 1970, on continue aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, les socialistes français, la gauche française, la gauche de gouvernement, a compris que le marché était là, qu'il fallait l'accompagner. Il faut une économie de marché, mais parallèlement, il faut être fort sur nos valeurs, sur les valeurs de gauche, sur les valeurs sociales, les valeurs républicaines. Et le Premier ministre l'a dit tout à l'heure. Donc évidemment, moi je regrette le vote des frondeurs. Pourquoi? Parce que ça enlève beaucoup de clarté. Moi, quand je rencontre des habitants de mon département dans la Drôme, des gens qui nous sont plutôt proches, qui ont pu voter pour Hollande, qui aujourd'hui sont déçus, disent « je ne voterai plus pour lui ». On en rencontre tous les jours. Parce que la situation est grave. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, ils nous disent, mais comment croire que la politique est la bonne, puisqu'à l'intérieur de votre camp, à l'intérieur du Parti Socialiste, des députés pensent qu'une autre politique est possible. Et ça, ça brûle les pistes.
Oui, mais c'est ça qui n'avait pas marché pendant.
Mais justement, c'est pour ça qu'il faut assumer totalement le réformisme voulu par le chef de l'État et le Premier ministre. C'est un réformisme de gauche pour la France et pour les Français. On ne va pas continuer avec des politiques qui n'ont pas marché depuis 30 ans, sous la gauche et sous la droite.
Vous dites, le problème n'est pas de savoir si les économies sont supportables, les 50 milliards d'économies. Ok, Manuel Valls a quand même dit, il n'y aura pas de hausse d'impôts supplémentaires, il n'y aura pas d'économies supplémentaires. Il entérine quand même le fait qu'il y a un seuil de saturation dans la société, et on laisse courir les déficits. Il y a quand même une prise en compte de ce qui se passe, et aussi...
Non, mais attendez, on laisse courir les déficits. Les déficits ont explosé ces 5 dernières années.
Oui, mais c'était un engagement jusqu'à il y a une semaine.
La volonté du président de la République, c'est de dire on va réduire les déficits. Et nous avions comme objectif 3%. Mmh. Oui, mais entre-temps, que s'est-il passé? Une déflation totale en Europe, des pays européens qui ne s'en sortent pas, l'Allemagne qui commence à souffrir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe doit changer de braquet. L'Europe, ça ne doit pas être l'Europe de la contrainte, l'Europe du libre-échange, l'Europe qui rogne tout. Non, l'Europe, il faut absolument qu'elle soit l'Europe de la croissance. C'est pour ça que François Hollande a demandé un sommet de la croissance, et que peut-être, profitant de la présidence italienne de Matteo Renzi, nous arriverons avec les sociodémocrates européens, et y compris avec la droite européenne, de changer cette politique.
Il faut convaincre l'Allemagne. Manuel Valls en a parlé aussi. Est-ce que vous pensez que la France peut y arriver? Parce que
ça fait tousser. Hein.
Non,
peut se comprendre. Même Manuel Valls doit tousser de temps en temps.
Non, ce qui fait tousser, c'est la façon dont se positionne l'Allemagne. Enfin, c'est un partenaire. Nous sommes alliés avec l'Allemagne. On ne doit pas être dans les diktats de Mme Merkel ou de l'Allemagne. Aujourd'hui, que faut-il faire? Il faut que l'Europe aille mieux. L'Europe, c'est un espace de paix, un espace de libre-échange. Mais c'est un espace où dans lequel les jeunes ne croient plus. Ils votent Front National ou ils s'abstiennent. Dans lequel les Français sont hésitants. Parce qu'ils pensent bien sûr qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe. Il y en a aux frontières de l'Europe. Il n'y a plus eu de guerre en Europe depuis 1945. Sauf qu'on vit mal dans ce pays, avec des dizaines de millions de chômeurs. Et c'est pas ça le modèle que nous voulons. Et si nous voulons changer la société, il faut aussi changer d'Europe. Mais les libéraux et les conservateurs sont au pouvoir en Europe. Nous n'avons pas la majorité. Et nous ne voulons pas faire la politique qui est menée par l'Allemagne depuis des années. C'est pas une politique de rigueur.
Mais alors, vous avez parlé de valeurs. Et il semblerait qu'effectivement aujourd'hui, les valeurs, bon, les problèmes économiques se rajoutent, aux problèmes économiques se rajoute une crise morale. On l'a vu entre le livre de l'ex-première dame, suivi du cas Thévenoud, désormais stigmatisé un peu par tout le monde. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain, et est-ce que ça appelle pas, au contraire, un discours quand même très axé sur la morale, très axé sur les valeurs?
Mais évidemment qu'aujourd'hui, la crise morale est profonde. Elle est profonde chez tous nos concitoyens. Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts au moment où d'autres n'arrivent pas eux-mêmes à les payer, ça pose un problème. Et moi, j'ai été interpellé, je vous dis, des dizaines et des dizaines de fois par les gens que j'ai rencontrés, par les élus que j'ai rencontrés dans la campagne des élections sénatoriales. Donc sur les valeurs, il faut être intransigeant. D'ailleurs, si ce cas-là a été révélé, c'est parce que François Hollande a mis en place, avec le Parlement, la haute autorité qui a relevé cette difficulté. C'est aussi ça, on l'a jamais dit assez. Mais ça serait passé avant, on aurait pu ne jamais en entendre parler.
Malgré tout, on a vu aussi des dérives au Sénat qui ont été révélées par voie de presse, par le Canard enchaîné il y a quelques temps, et repris aujourd'hui par Mediapart. Donc effectivement, est-ce que ces dérives-là aussi, elles sont aujourd'hui endiguées, repérées
Non mais les dérives sont repérées. Le problème de la politique aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'exemplarité. Les femmes et les hommes politiques doivent prôner l'exemplarité et être exemplaires. Ça ne peut pas être autrement. À un moment où la défiance, l'abîme, le fossé entre les citoyens et la politique n'a jamais été assez grand, la plupart des citoyens, ceux qui souffrent, mais comme d'autres, pensent que la politique ce n'est pas bon, que la politique sent mauvais, que la politique ne sert à rien, que les hommes politiques et les femmes politiques parlent entre eux, s'occupent d'eux, mais pas des Françaises et des Français. C'est à ce moment-là où il faut rebondir. C'est ce que veulent faire l'exécutif. C'est ce que veut faire l'exécutif français.
Vous pensez qu'il a rebondi là aujourd'hui, Manuel Valls, avec ce discours qui a peu d'annonces en fait. Bon, il a fait un petit geste sur les retraites, le minimum vieillesse. Est-ce que vous pensez que c'est audible par les Français? On n'a pas toujours l'impression d'entendre la même chose.
Aujourd'hui, il s'est adressé, j'ai trouvé, plus aux Français qu'aux parlementaires. Et en tout cas, moi j'ai trouvé ça très bien.
Est-ce que le résultat des frondeurs, à peu près un peu plus de 30, le montre. Il n'a pas réussi à convaincre.
Oui, mais enfin, on savait très bien qu'il n'allait pas convaincre. Ça se passe pas comme ça. Lorsqu'on est dans une posture, c'est pas là. Parce que si les frondeurs...
Bah, il a quand même essayé toute la semaine.
Si les frondeurs regardaient exactement les évolutions du dispositif économique, fiscal et social, ils auraient pu voter la confiance. Mais on est peut-être ailleurs. Mais non, les Français, je ne pense pas qu'ils puissent comprendre pour l'instant. Les Français comprendront lorsqu'ils auront le sentiment de ne plus être les oubliés de la République. Lorsqu'ils auront le sentiment dans les quartiers populaires, comme dans les zones rurales éloignées, d'être les délaissés de la République, d'être des sous-français. C'est de ça qu'ils ressentent. Le déclassement aujourd'hui, le déclassement pour nos concitoyens, n'a jamais été aussi fort. Ensuite, on leur parle de la courbe du chômage, de l'inversion, de faire baisser le chômage, mais ils ne le voient pas. Leurs épouses, leurs maris, leurs femmes, leurs neveux, leurs enfants sont au chômage. Et tant que cela, ça ne reviendra pas.
Alors là, on voit, il n'y a pas eu de promesse de cet ordre-là, par Manuel Valls.
Non mais, aujourd'hui, attendez, je veux revenir à ce que vous disiez à l'instant. Mais ce n'était pas un discours de promesse. C'était un discours de gravité et de continuité. Il y a eu un changement de gouvernement, mais le Premier ministre a été reconduit. C'est la politique d'avril qui a été réaffirmée cet après-midi, avec peut-être des inflexions, des choses qu'il fallait absolument faire évoluer sur les petites retraites. C'est quand même incroyable qu'on ait accusé le gouvernement la semaine dernière de ne pas vouloir augmenter les petites retraites, alors que c'était le mode de calcul avec le niveau de l'inflation. Le Premier ministre l'a réaffirmé. Et c'est quelque chose de bien. Il a réaffirmé aussi que l'année prochaine, pour les entreprises, il y aurait des baisses de charges d'une dizaine de pourcents, parce qu'il faut que les entreprises retrouvent la capacité à se développer. C'est indispensable.
Mais Rosine, il y a quand même aucune... Alors, il y a des mots, bien sûr, les mots qui frappent, puisqu'il l'a dit, Manuel Valls, le béaba de la compétitivité, eh bien, c'est l'entreprise. Ce sont elles qui créent la richesse et la croissance. Mais il annonce quand même aucune réforme. Aucune réforme de l'État, aucune réforme sur la santé, aucune réforme sur l'éducation. Voilà, comment on avance quand même? Parce que ce pays, et vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, demande des réformes.
Non mais je ne partage pas tout à fait votre analyse, parce que la réforme de
l'éducation... C'est pas vraiment une analyse, c'est un peu une
question. Non mais ce que vous dites, la réforme de l'éducation, elle a commencé, il faudra aller plus loin. La réforme de l'État, elle est en place. Il l'a cité dans son discours.
Comment ça a commencé, la réforme de l'État?
La refondation de l'école, le collège, la maternelle, l'école primaire, les choses. Mais il faut du temps. Une réforme, ça prend pas, ça se fait pas en trois jours. Vous savez, Matteo Renzi a dit, quand il a été élu, je vais réformer en 100 jours. Puis un mois après, il a dit finalement, ce sera 1000 jours. Bon, voilà. Alors que tout le monde applaudissait. Ah oui, si Hollande pouvait faire comme Renzi, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Ben, comme partout. Parce qu'il y a des pesanteurs. Donc ça, la réforme territoriale, elle est en place. Le nombre de régions va diminuer de moitié. Bien sûr que ça fait peut-être aller des gens qui ne veulent pas aller avec telle ou telle région, mais on s'en contrefiche. Ce n'est pas ça le problème. C'est le mouvement et c'est la réforme. La réforme des départements, il l'a réaffirmé cet après-midi. Donc il y a des choses qui ont été dites, mais il n'allait pas refaire son discours de politique générale du mois d'avril. Nous continuons.
Alors justement, Roselyne a abordé l'aspect des entreprises. Il a réaffirmé, là encore, une mini déclaration d'amour aux entreprises, en disant qu'il fallait soutenir, que c'était l'arme de la compétitivité qu'il fallait mettre en avant. Et il y a une petite polémique avec le MEDEF qui a fait des propositions cette semaine qui n'ont pas plu à tout le monde, notamment syndicalistes. Remettre en cause les 35 heures, baisser le salaire minimum. Et là, le Premier ministre a bien senti que politiquement, il fallait quand même qu'il fasse quelque chose. Je vous propose de l'écouter.
La confiance doit être réciproque. Personne, et je le dis clairement au patronat, ne doit prendre le risque d'affaiblir par je ne sais quelle provocation et par je ne sais quelle surenchère l'indispensable dialogue social qui est la marque de ce quinquennat. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il faut faire preuve de constance et respecter les règles du jeu. C'est ce que je rappellerai encore une fois au MEDEF qui doit pleinement s'engager. Quand la nation fait cet effort, chacun, oui, je le répète, doit être à la hauteur de ses responsabilités.
Alors, il rappelle à l'ordre le MEDEF. On a l'impression que le MEDEF ne comprend pas bien le message. Hein. Il persiste et signe,
M. Gattaz. Il a l'air de ne pas le comprendre. Et c'est bien dommage.
C'est un peu une provocation quand même, ça, à deux jours du discours de politique générale.
C'est une provocation que je juge inacceptable. Je pense que le MEDEF se comporte très mal. Moi, j'appelle le MEDEF à faire du patriotisme économique. Quand je vois que d'un côté, les dividendes versés ont augmenté de 30%, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais le MEDEF, c'est un partenaire comme les autres. Et tout à l'heure, le Premier ministre, il a parlé des entreprises, il a aussi parlé des salariés. Pour que ce pays redémarre, ça redémarrera par les entreprises. Mais ça démarrera par les entreprises citoyennes, les PME, les TPE, qui sont dans tous les territoires de France. Et pas uniquement par les grandes déclarations qui parfois s'apparentent un peu à de la politique. Moi, j'appelle tout simplement Monsieur Gattaz à retirer le pins de sa veste. Il a un pins depuis des semaines et des semaines en disant nous allons créer 1 million d'emplois. C'est de la communication. Il a sûrement une belle agence de communication. Mais pour le reste, il fait du surplace.
Mais est-ce que
ce n'est pas acceptable.
Est-ce que vous ne voyez pas que les Français peuvent s'interroger quand ils entendent le discours du Premier ministre cet après-midi qui dit on va réformer mais pas remettre en cause le modèle social français. On y est très attaché. Et qu'il y a le chef des patrons qui, visiblement, à chaque fois, essaye de rentrer par la petite porte et de refaire passer des messages.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais je pense que les Français entendront plus le discours du Premier ministre que celui du président du MEDEF. En même temps, il faut aller loin. Il a évoqué des sujets. Hein. Les seuils sociaux, pourquoi pas, et d'autres choses. Il n'y a pas de tabou.
Mais enfin, pourquoi pas, Roselyne Fèvre.
Mais avançons.
Enfin, est-ce que la question est quand même, est-ce que dans le fond, il n'y a pas un problème entre une partie des socialistes et le monde de l'entreprise? Comme si, pour reprendre la phrase, gouverner, c'était trahir pour les socialistes.
Je ne crois pas.
Qui ne veulent pas se convertir au réalisme. Et dans le fond, pourquoi l'entreprise, c'est l'ennemi?
Mais l'entreprise, ce n'est pas l'ennemi.
Non, mais pour certains socialistes.
Pas pour Manuel Valls,
Non, mais pour les fondeurs, par exemple.
Moi, je travaille. Oui, mais ils sont 32. Ils sont 32, les frondeurs.
Ils sont 32 à s'exprimer, mais on sent quand même...
Ils sont 32 à voter. Il y a 250...
Il y a un malaise au Parti Socialiste.
Non, mais là, c'est pas l'idéologie, ouais.
Mais il y a peut-être un malaise. Peut-être il y a un malaise.
Chez les militants.
J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que, comme président de conseil général, je vois des chefs d'entreprise tous les jours. Je vois le MEDEF de mon département tous les jours et on se parle. Et les PME, les TPE sont contents du CICE, sont contents des baisses de charges et avancent. Et beaucoup m'ont dit, moi si j'avais pas eu le CICE, je n'aurais pas pu investir, j'aurais dû licencier. Donc ça marche sur le terrain, ça marche, il n'en faudrait pas beaucoup. Simplement, il faut que le président du MEDEF, M. Gattaz, je pense, change de positionnement. Alors il doit être étiré écartelé. Mais les socialistes aiment les entreprises, aiment les chefs d'entreprise et aiment les salariés. L'économie, c'est l'essentiel. S'il y avait 3 priorités à mettre, je mettrais 1 l'économie, 2 l'économie, 3 l'économie. Et c'est que si cela, ça marche, que l'on pourra repartir. Mais enfin, ce n'est pas la dérégulation. Réformer, ce n'est pas déréguler. Ce n'est pas le libre-échange. Il faut tenir compte aussi des millions de Françaises et Français qui souffrent, qui se lèvent la nuit pour aller travailler, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, qui ont un emploi à temps partiel. Faut penser à ces gens-là. C'est pour ça que la gauche est toujours très sensible, les nerfs à vif lorsqu'on parle de cela. C'est l'équilibre. L'entreprise et le salarié.
Eh bien, Didier Guillaume, c'est passé très vite. On arrive à la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous nous retrouvons dans 3 minutes exactement avec Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat. À tout de suite.